Vous voulez vous lever et regarder en Matthieu 7. On va lire à propos de la maison. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. L'Esprit est vraiment ici, c'est beau. Dans nos pensées, dans nos cœurs, on écoute chaque parole et c'est tellement précieux. Et l'Esprit de Dieu est ici avec nous, dans notre culte. J'ai un très bon message. Si vous étiez au message de 8h30, vous allez voir, celui-là est très bien. C'est le même message, mais je ne suis pas tout à fait sûre de comment ça va être. Seigneur, donne-nous un grand message aujourd'hui. Et on veut aussi être enseigné, édifié. S'il vous plaît, si vous pouvez juste éteindre vos téléphones portables, ne pas envoyer de textos non plus. J'ai entendu dire que telle personne envoie des textos à sa femme pendant le culte. Les adolescents, écoutez bien, je veux vous parler du monde, du sexe, du vin. Beaucoup de choses importantes à vous dire. Je veux juste que vous soyez éveillés, relaxés, heureux et aussi très concentrés. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez un peu vous lever, vous mettre à l'aise? Ça va, vous êtes prêts? On veut vraiment accueillir Sean et Sandra. Ils sont ici pour la première fois à l'église avec Sean. Merci. C'est super. Une petite blague avant de commencer. Il y a deux vaches qui sont ensemble. Il y en a une qui dit à l'autre, est-ce que tu as entendu parler de la maladie de la vache folle? Et l'autre lui a dit, oui, j'en ai entendu parler, je suis tellement contente d'être un pingouin. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Ça veut dire qu'elle a déjà la maladie de la vache folle. Je crois que ça suffit. Vous pouvez vous asseoir. Regardez en Romains 12. La semaine dernière, on a parlé de Dr. Martin Luther King, de l'impact qu'il a eu dans la société à cause de ce qu'il croyait, du fait qu'il avait un cœur et une pensée spirituelle. Et on voit ça dans les lettres qu'il a écrites alors qu'il était dans la prison de Birmingham. Et quand vous lisez ça, vous pouvez saisir la profondeur de ses pensées et aussi le cœur de ses motivations. En Romains 12, versets 1 à 3. On a lu ces versets la semaine dernière, on va les relire ce matin, parce qu'on a quelque chose à dire pour chacun d'entre nous, pour nous aider dans notre vie, et pour comprendre que Dieu nous a donné des instructions pour le fait de construire notre maison, et il nous conduit dans une certaine façon de penser. Je vais dessiner une maison. Et en général, on voit juste la maison. Mais peut-être si on va dans la cave, on peut voir les fondations. Et ces fondations reposent sur quelque chose dans le sol. C'est ce qu'on appelle le substratum. C'est ce sur quoi les fondations sont construites. Donc il y a le substratum, et au-dessus il y a les fondations, et au-dessus il y a la maison. On pourrait dire que parce que nous croyons en Dieu, Dieu qui est tellement sage et puissant, Dieu qui a tout en contrôle, Dieu qui est vrai et réel, la réalité de Dieu est à la base de notre maison. Profondément dans le sol, là où personne ne peut voir, c'est notre foi. Notre foi est merveilleuse. On a la foi. On a juste quelque chose qui nous permet d'agir. Si on nous enlève notre fondation, où l'homme juste se tiendra-t-il? S'il n'y a plus de foi en Dieu, d'où vient notre justice? Les fondations qui sont construites ici, on les trouve en 1 Corinthiens 3. Regardez avec moi. J'espère entendre les pages qui tournent. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, dit l'apôtre Paul. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Et Paul veut dire qu'il a amené la doctrine de Christ au cœur de l'Église. C'est la doctrine de Christ qui vient de la Bible. Paul a écrit 13 épîtres et il nous enseigne à propos de la dépravation, de la grâce, de l'orientation qu'on doit avoir comme croyant. La fondation, c'est Christ. J'ai posé le fondement. Et on peut ajouter dessus par le fait qu'on écrive la doctrine, l'orientation qu'on a dans notre théologie. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. À partir de là, à partir de en dessous, c'est de là que la maison sort. La maison sort de Dieu, de son Saint-Esprit, sa pensée. C'est pourquoi dans notre ministère ici, on parle beaucoup du Saint-Esprit et de la pensée de Christ, ou la doctrine didascalia en grec, la pensée de Christ dans les Écritures. Les pasteurs, les enseignants qui nous aident à comprendre notre Bible. Vous avez besoin d'avoir une Bible vous-même, personnellement, et de la lire vous-même, de l'ouvrir et de la lire et de penser avec elle. Et Dieu mettra en vous une motivation. Ça vient de notre fondation. Christ est celui qui nous motive dans nos cœurs. Mais d'une façon religieuse, parfois, on pense à la maison, là-haut, et on ne pense pas en termes de fondation. Mais en Romains 12, on a une explication. ces versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. On a écouté Pasteur Stevens qui a fait référence à ça ce matin, les compassions de Dieu ou les miséricordes de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Les Lévites qui étaient, enfin, ceux de la lignée d'Aaron, qui avaient des défauts corporels, qui étaient courbés, ils étaient exclus du service. Ils ne pouvaient pas avoir un défaut pour servir dans le tabernacle. Et donc, en application pour notre vie, on peut dire, Seigneur, on est des nains, on est des gens qui ont des défauts physiques de toutes sortes. Et Dieu nous répond, oui, je sais, c'est pour ça que Christ est venu, pour changer des vies. Il est mort pour que vous viviez. Et maintenant, la vie que nous vivons, c'est une autre vie. Et maintenant, on est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est vraiment vrai pour nous. Beaucoup d'entre nous, on lutte contre notre image propre, des addictions, de mauvaises habitudes. Mais on ne peut rien dire à propos de ça si ce n'est... En fait, on pourrait dire beaucoup de choses à propos de ça, et la parole en parle beaucoup. Mais on est dans une église où nous disons, il y a maintenant une nouvelle orientation. Je suis mort et maintenant je vis. Et la vie que je vis maintenant, c'est la vie de Christ, par l'Esprit de Christ, la pensée de Christ. Maintenant, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, et c'est notre culte raisonnable, notre service logique. Ne vous conformez pas au siècle présent ou à ce monde. On va dessiner une autre maison. Ça, c'est du sable. Et la maison est construite dessus. La maison est construite sur du sable. Le sable, c'est le monde. Le monde dans l'évangile de Jean peut avoir beaucoup de sens différents. Jean a défini le monde dans son évangile et dans ses épîtres. Le mot grec, c'est cosmos, qui signifie littéralement ordre. C'est en opposition au mot chaos, qui parle du désordre. Cosmos, c'est de là que vient le mot cosmétique. En fait, ça veut dire qu'une femme met son visage en ordre. Porter des cosmétiques, c'est mettre son visage en ordre. Et dans le monde, il y a un ordre. Il y a un ordre dans le monde. Mais cet ordre n'a aucune fondation. Et je vais vous illustrer ça un petit peu aujourd'hui, comme on a fait un peu plus tôt ce matin. Dans le monde, ils parlent de sexe partout. Le monde s'en vante dans les rues, dans les bars, dans les clubs, dans les hauts niveaux de la société. On parle d'infidélité, on parle d'hommes et de femmes, de promiscuité. Et les gens parlent de ça et ils rient à propos de ça. Ils se vantent de ça, ils en sont fiers. Ils aiment en parler. Ils parlent ce langage. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, vous parlez de harcèlement sexuel. Et si vous allez encore un tout petit peu plus loin, vous allez finir en prison. Mais vous m'avez dit que le sexe était quelque chose de chouette. Le monde dit que nous sommes sexuels et que c'est super. Et tout d'un coup, vous suivez ça, et puis tout d'un coup, en une seconde, vous perdez votre travail. Pourquoi vous avez perdu votre travail? Parce que vous êtes accusé d'avoir harcelé une dame. Et vous allez au tribunal et vous pouvez finir en prison. Et vous êtes un idiot. Et vous vous demandez, mais comment ça m'est arrivé? Mais ne savez-vous pas que ce que le monde vous dit, en dessous de ce que le monde vous dit, il y a quelque chose de très instable? Le monde va vous dire aussi que le vin, l'alcool, c'est quelque chose de très à la mode. Bien sûr, ça l'est. Le vin, l'alcool. Qu'est-ce que le monde en dit? On voit ça à la télé, dans les magazines, c'est à la mode, dans la haute société. Mais regardez un petit peu l'autre côté des choses. Et vous vous retrouvez à vous dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes menteur, coupable, idiot. Vous vous retrouvez à conduire une voiture, à tuer une personne, à tromper, à casser votre mariage. Et comment vous avez fait ça? À cause du vin. Proverbe 20, verset 1. Le vin, dit le vin, est moqueur. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui vivent sous des ponts, qui dorment dehors dans des sacs de couchage et qui se nourrissent de vin et d'alcool. Leurs extrémités sont gonflées. Je connais un homme en Finlande, un médecin. Il savait parler 5 langues. Il était très éduqué, très cultivé. Il parlait comme je parlais. Et il était dans la rue. Il était sale, des pieds à la tête. Il avait des lèvres et des extrémités gonflées. Merci le monde. Tu es tellement chouette. Je peux vraiment te faire confiance. Tu as vraiment couvert mes arrières pendant que je buvais du vin. Tu m'as poussé à boire du vin. Tu m'as fait croire que c'était ça la vie. Mais j'ai été rattrapé, j'ai été mordu comme par un serpent. J'ai été piégé. C'est ça le genre de maison que les gens construisent dans ce monde. Je suis désolé. Parce que c'est moi et vous. Si ce n'est qu'il est dit dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 8. C'est un très beau verset. Haman est venu vers le roi Assuérus et lui a dit, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple qui est différent de ton peuple et qui a des lois différentes de notre loi et on doit se débarrasser d'eux. Et je veux bien payer de mon trésor personnel 10 000 talents d'argent et les mettre à ta disposition pour tuer ces gens. » Et le roi a dit, « D'accord. » Et l'argent a été mis dans le trésor du roi. Et ils ont commencé un programme. Et j'aime ce verset. Il y a un peuple ici sur la terre qui est différent de tous les autres. Et leurs lois sont différentes. Parce qu'ils ne construisent pas leur maison sur le monde, sur des émotions et sur des convoitises. Un message tellement important. On a déjà parlé du sexe, du vin, la religion aussi. Qu'est-ce que le monde dit à propos de la religion? Le monde se fiche que vous ayez une religion, mais il n'y a pas de fondation, pas de Christ, pas de Bible. Jésus a dit à la femme au puits, « Vous adorez, mais vous ne savez quoi. » Paul a dit en Acte 17, Vous adorez avec ignorance, vous ne savez pas qui. Vous l'ignorez sans savoir qui il est. Alors que c'est lui qui vous donne la vie, le mouvement et l'être. Et le monde dit, c'est ok la religion, tu peux y aller autant que tu veux. Mais leurs religions sont vides. Dans les pays islamiques, j'ai rencontré des gens qui cherchaient Dieu et qui allaient à la mosquée et ils ne trouvaient rien là. Ils m'ont dit ça tellement de fois. Ils sont allés là-bas en cherchant Dieu et ils n'ont rien trouvé. Il y avait juste une pièce vide avec des chaussures à l'extérieur. Et ils disent, j'ai enlevé mes chaussures et je respectais la religion et je cherchais quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Et mon but n'est pas d'offenser des gens religieux ce matin. Je respecte les gens qui cherchent Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je veux le dire à ceux qui sont d'un arrière-plan islamique et qui m'écoutent aujourd'hui sur Internet. Mais ça peut être la même chose avec la foi chrétienne, pardon. Vous pouvez construire votre maison sans qu'il y ait de substratum dans votre vie, sans qu'il y ait de fondement. Encore une chose dont le monde parle différemment de nous, la mort. Le monde dit beaucoup de choses aujourd'hui à propos de la mort dans la communauté scientifique. Ils étudient ça, ils en parlent, mais personne n'a une réponse pour moi dans ce monde à propos de la mort. Il n'y a pas de réponse. Qui est là pour parler de la vie éternelle dans ce monde? Le monde est juste un moqueur. Je pense à l'homme qui vit sous le pont et le monde est comme quelqu'un qui vient et qui se moque de lui. Le monde se contente de se moquer de nous mépriser, nous traiter de fous. Et il rit. Ha ha ha, je t'ai eu. Comment vas-tu? Je t'ai eu. Extérieurement, ça paraît super, ça paraît très cool. Mais en fait, ça amène à l'enfer, à la prison, au fait d'être lié, de perdre des familles, de perdre ses enfants, de perdre son époux dans des accidents de voiture. Mais passons à la bonne nouvelle, d'accord? Passons à la bonne nouvelle. Romains 12, verset 2. Ne soyez pas conformes à ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous n'avez pas besoin de recevoir des conseils des gens qui sont dans les bars, des incroyants. N'allez pas chercher vos conseils dans le monde. Allez dans la maison de Dieu. Et là, vous allez recevoir de bons conseils. Et vous allez recevoir personnellement de Dieu. Verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence, nos pensées. Nos paroles. Notre pensée, notre intelligence est importante. Nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. Chaque page, c'est comme une friandise pour moi. Chaque fois que je rentre à la maison, j'ai hâte de m'asseoir et de lire une page. Parfois, je la lis rapidement et je lis un livre en 5 minutes. En priant, en adorant Dieu. C'est comme de la nourriture pour moi, c'est comme du pain. J'aime la Bible. Aimez votre Bible. Ayez une relation avec Dieu dans la Bible. C'est votre fondation. La vie viendra du dessous de la fondation. Elle viendra de Dieu. Et vous allez construire votre maison. Et au lieu du sexe, vous aurez la sexualité. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça. La sexualité, c'est merveilleux. Quand un homme est un homme et une femme est une femme, la sexualité vient d'eux et c'est merveilleux et c'est beau. Quand les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes, ils sont différents. La différence est évidente. Elle est physique, elle est psychologique. Dieu nous a fait hommes ou femmes. Et quand nous sommes saints, alors la sexualité est quelque chose de merveilleux. Vous êtes une femme pieuse, et vous êtes merveilleuse en tant que personne. Le sexe, c'est une expression bon marché de la sexualité. Mais la sexualité, dans le contexte de ce que Dieu a déterminé pour vous, à ce moment-là, c'est merveilleux. C'est Dieu qui a déterminé la mesure de la féminité d'un côté et de la masculinité de l'autre. Pas des machos. Ça, c'est le monde. Et le féminisme, ça aussi, c'est le monde. l'égalité, le pouvoir de l'argent, la recherche de position, la compétition. Ça, c'est des concepts du monde du féminisme. Et le machisme, c'est pareil, c'est un homme qui est juste fier de ses muscles. Mais la vraie masculinité, c'est pas ça. C'est une spiritualité, avoir des convictions, une compréhension, être capable d'aimer, de se soucier et d'aimer de façon honorable. Et la féminité d'une femme vient aussi de Dieu. Elle est spirituelle. Et la sexualité dans ce cadre-là est extrêmement satisfaisante parce qu'elle vient de Dieu. C'est la maison que Dieu construit. Quand une femme aime être une femme et qu'un homme aime être un homme, encore une dernière chose à ce sujet. J'ai tellement de choses à dire. La femme a perdu sa réelle féminité à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le diable l'a tentée et qu'elle a pris une décision de façon indépendante, une décision centrée sur elle-même. Et rien n'éloigne plus une femme de la condition que Dieu lui a donnée quand elle est au centre de ses décisions. Et en fait, elle aurait dû écouter, pas prendre la décision elle-même, mais écouter Dieu et laisser Dieu prendre les décisions. Et Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas. Mais quand une femme est vêtue d'humilité, de spiritualité, de piété, à ce moment-là, elle devient très attrayante pour un homme spirituel. Et de la même façon, Adam a perdu sa masculinité à l'arbre de la connaissance et du mal quand il s'est laissé tenter par sa femme. Quand il a pris le fruit, il est devenu moins qu'un homme. Il est moins que ce qu'il avait été destiné à être. À cause de la chute, les hommes et les femmes sont devenus moins que ce à quoi ils avaient été destinés. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? Le monde a son opinion là-dessus. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux quand vous dites que les hommes et les femmes sont identiques? C'est vraiment ce que le monde dit? On n'est pas conforme à ce monde, mais on est transformé. Il y a quelque chose de tellement beau à comprendre que la vie, ça n'est pas le sexe, mais la sexualité, c'est ce que Dieu a donné. Si l'homme est un homme et que la femme est une femme, imaginez de changer l'histoire de Genèse 3. Que Ève ait dit, non, je ne vais pas prendre de décision en dehors de Dieu. Et que Adam lui ait dit, Ève, tu es magnifique. Tu as touché mon cœur. Tu es incroyable et je t'aime. Cette relation entre eux aurait été très satisfaisante. Et il n'y a pas de sexe dans cette histoire, mais il y a juste un caractère qui se manifeste. Christ, le deuxième Adam, a pris ses décisions. Et c'est pour ça qu'on peut croire en lui et se confier en lui. Et on sait qu'il ne va pas nous tromper. Il n'y a pas de double sens. Il ne va pas essayer de nous jouer des tours. On sait que c'est quelque chose de réel. C'est un substratum solide, Dieu lui-même. On a parlé aussi de ce que le monde dit à propos de l'alcool. Et pour nous, ça s'est remplacé par la joie de Dieu, le fait d'être rempli par le Saint-Esprit. Quand je me trouve avec des amis et qu'on me demande si je veux boire, je dis non, je ne bois pas. Et en fait, on aime être ensemble et passer du temps ensemble, et on a de la joie, mais on n'a pas besoin d'alcool pour ça. Et on peut passer de bons moments ensemble, se raconter de belles histoires, et on a de la joie entre nous, c'est la joie du Saint-Esprit. On a un message, on est guidé. Parce que notre pensée a été transformée. Et quand ça devient sale, vous le nettoyez à nouveau, et c'est transformé à nouveau. Et quand j'ai des convoitises de mon cœur qui montent et qui affectent ma pensée, je viens à Dieu et je lui dis, Seigneur, par ta grâce et par l'amour que tu as pour moi, renouvelle mon entendement. On a parlé aussi de ce que le monde dit de la religion. Et à la place de la religion, on a la grâce. Et à la place de la mort, on a la victoire. De cette histoire de John Bunyan qui parle du trajet du pèlerin, du voyage du pèlerin. Le chrétien est dans un voyage. Il traverse la vie en direction de la cité céleste et il traverse toutes sortes d'épreuves. Et à un moment, il arrive devant une rivière et la ville est juste derrière, la cité céleste est juste derrière. Et cette rivière, c'est la mort. Le chrétien qui arrive à la rivière est rempli de peur et il commence à sombrer dans les eaux sombres. Mais heureusement, il a un de ses compagnons qui l'encourage en lui disant « N'aie pas peur, je sens le fond et il est bon. » Et alors le croyant retrouve sa foi et traverse la rivière en sécurité vers la cité céleste. Quand notre pensée est renouvelée, on pense à la mort. Et il y a une partie de nous qui a peur parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a cette voix qui nous dit « n'aie pas peur, cher frère. Je peux sentir le fond et tout va bien. » En dessous de nous sont les bras éternels. On a un Dieu qui ne nous manquera jamais. Il y a du pain pour nous. On a été changés, on a été transformés. Le diable dit de nous, ces gens, ils sont différents de toutes les autres personnes du monde. Je ne peux pas mettre ma main sur eux. Je veux les détruire. Et il essaye de faire ça. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous ne mettez pas tout ça en règle, vous allez vous faire avoir par le système de ce monde. Si vous n'avez pas une pensée transformée, si votre motivation n'est pas ce que je dis, si c'est juste de construire une maison et de vivre votre vie, alors vous verrez tout d'un coup, l'orage viendra et il emportera tout. Et c'est le monde lui-même qui va vous balayer et il va se moquer de vous et il va dire « Ha ha ha, je t'ai eu ». Vous aurez cru dans un mensonge, vous aurez été séduit, vous vous serez fait tromper par le mal. Mais comme nous aimons la Bible, comme on aime le bruit des pages qui tournent, notre salle de prière est occupée. Le vendredi soir ici, il y a des prières. Les missionnaires sont partout et j'ai parlé aujourd'hui au téléphone avec Pasteur Kande, c'est lui qui m'a donné ce verset d'Esther 3:8. Et je lui ai dit, tiens, je vais en parler ce matin. Ce qu'Aman a dit, il y a un peuple qui est différent de tous les peuples du monde, et c'est nous. Peut-être vous dites, Seigneur, pasteur, je ne comprends pas de quoi tu parles, je ne suis pas capable de ça. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. J'ai des soucis, j'ai toutes sortes de problèmes émotionnels. Et je voudrais vous dire, vraiment, sérieusement, peu importe ce dont vous avez besoin, peu importe, on est tous pareils.
place out in the woods somewhere in a city and somewhere we could be living our own life our own way.
Vous et moi, on pourrait vivre notre maison, notre vie de à notre manière. Et on a plein de défauts. Mais peu importe, Dieu nous dit, venez, venez, présentez-vous comme saint, acceptable, ayez votre pensée transformée. On va reconstruire cette maison. Avant de terminer, on va reparler encore de cette maison. À ce moment-là, on construit notre maison sur une vraie fondation, et c'est quelque chose de beau. Il y a des fenêtres, il y a une cheminée. Il y a des fleurs aux fenêtres, des buissons autour. Avec toutes sortes de couleurs. Des fleurs dans les jardinières. Construisons cette maison. Voici la maison qu'on peut construire. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir une maison comme ça? Ou vous préférez avoir des relations sexuelles avec des centaines de personnes? Vous ne savez pas du tout ce qui est bon. Repentez-vous. Trouvez Christ, venez à lui, devenez croyant. Changez votre façon de penser. Et alors vous pourrez avoir une véritable sexualité comme Dieu l'a conçue. Et vous aurez de l'autorité dans votre âme pour prendre des décisions et pour honorer les gens. Quand j'ai élevé ma fille, je lui avais dit, je te donne la permission de donner une gifle à quiconque te fait des propositions d'une mauvaise manière. Et un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà eu à donner une gifle à quelqu'un? Et elle m'a dit, oui, deux fois. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu. Qui m'a fait des propositions et je lui ai dit, fais attention, si tu continues, je vais te donner une gifle. Et il a dit, vas-y, et elle l'a fait. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une bonne pensée? Quelle est notre motivation interne? Qu'est-ce que c'est que l'autorité spirituelle? Qu'est-ce que c'est que le corps de Christ? Quelle est la valeur d'une âme? Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Qu'est-ce que c'est que la prière? Tout ça, le monde ne sait pas ce que c'est. Il va essayer de vous vendre de la marchandise bon marché. Mais tout ça, c'est des choses qui passent, c'est vide, je peux vous le garantir. Ça va vous attraper, ça va vous piéger et ça va détruire votre vie. Complètement. Pensez à ça. Et revenez ici. Revenez tout le temps, venez tous les jours. On prêche ici tous les jours, on a des temps de communion tous les jours. Venez, venez tous les jours. Mercredi, lundi, mardi, venez à l'Institut biblique. Apprenez ces choses. Il y a tellement de choses à dire. Seigneur, on n'a pas assez de temps pour dire et faire toutes les choses qu'on a besoin de dire et de faire à cette période sombre de l'histoire du monde. Venez pour vous équiper, pour avoir des convictions, pour apprendre comment penser, comment vivre. On a besoin de recevoir la doctrine tous les jours, que ce soit dans nos voitures, sur Internet, dans des livres. C'est la maison de Dieu. Et quand l'orage vient, quand la tempête vient, il est dit dans les Proverbes, elle vient frapper la base de la maison. Elle frappe fort. Des tornades. Il y a certaines parties de ce pays où il y a 23 tornades en 24 heures qui dévastent tout. Mais cette maison-là, elle ne peut pas être ébranlée. Même la mort. Je peux sentir le fond et c'est bon, on peut traverser. On peut traverser la mort, absolument. Est-ce que le monde peut dire ça? Non. Est-ce que Christ le dit? Oui. Le monde dit bois, 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 et après il se moque de toi. Ha ha ha. Mais Christ dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont un piège. Et ceux qui se laissent séduire par elles sont détruits. C'est Proverbe 20, verset 1. Encore. Est-ce que c'était pas bon comme message? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que c'est pas extraordinaire qu'on peut de temps en temps se moquer un peu du monde et du diable? Eux, ils se moquent de nous tout le temps. Mais ce matin, on a fait un peu l'inverse. Ne vous faites pas avoir. Vous pouvez le faire. Qui que vous soyez, vous pouvez le faire. Dieu est là. Dieu est réel. Dieu est avec vous. Et on peut vous aider. Demain soir, il y a les 7 premiers pas, si vous voulez venir à ce programme. Tous les soirs, il y a des cours, doctrine appliquée, homilétique. Approchez-vous, on peut vous aider. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Il n'y a aucun doute, on peut vous aider. Allons de l'avant. Priez avec moi. Si vous êtes ici ce soir, ce matin, et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, je ne parle pas de religion, mais je parle du Christ vivant, ressuscité d'entre les morts. Il fait tenir toutes choses ensemble. C'est lui qui dirige tous les oiseaux du ciel. À travers lui, on peut avoir une pensée transformée. On peut vivre par la parole de Dieu, par chaque parole qui sort de sa bouche. Si vous voulez le recevoir, dites cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je te crois. Je te reçois. Je veux te faire confiance. Si vous faites cette prière, levez la main. Je t'accepte, je te reçois, je crois en toi. Levez la main. Sur Internet aussi, dites ça à Christ. On ne sait pas où vous êtes, qui vous êtes. On a reçu des nouvelles de Chine, du Minnesota, d'Écosse, où il y a des gens qui ont accepté Christ. Et peut-être aujourd'hui, c'est votre tour d'accepter Christ. Par la foi, au nom de Jésus. Amen.